Le Monde diplomatique, dans son édition de mai 2020, propose au lecteur un dossier intitulé Covid-19, après la crise, les crises. Ce dossier est ouvert en une par deux articles, un avant-goût du choc climatique par Philippe Descamps et Thierry Lebel, et un second article intitulé, lui, Qui va payer? Et qui est signé par Laurent Cordonnier. Laurent Cordonnier est économiste et professeur à l'Université de Lille. Ajoutons qu'il est un invité habituel de Radio PFM et en particulier de l'émission Tumulte. Laurent, bonjour. Tout va bien?
Bonjour,
Tout va bien?
ça va bien? Ben, comme on dit, aussi bien que ça peut aller dans ces circonstances.
Alors, on va parler au cours de cet entretien de cet article que tu as signé dans Le Monde diplomatique. Un article qui a une première particularité, c'est qu'il porte deux titres. Alors, en une, il s'intitule Qui va payer? Et par la suite, dans les pages intérieures, Qui va payer la dette publique? Alors, finalement, Laurent, quel est le bon titre, celui qui correspond à l'objet de l'article?
Il faut rappeler que les titres sont des choix de la rédaction hein, dans un journal. Donc, j'ai découvert en effet qu'il y avait deux titres, mais ils sont plutôt bons ces deux titres parce que on le verra peut-être tout à l'heure, mais il y a deux choses à payer. Il y a à payer la baisse de la production et des revenus. Donc, on pourrait appeler ça le coût réel de la crise économique, puisqu'elle se traduit par un plongeon brutal de la production de biens et services. Et puis ensuite, il y aura la dette publique à payer. Donc, finalement, cet enchaînement de titres n'est pas regrettable.
Alors, tu affirmes d'emblée en entrée de ton article que, je cite, hein, la crise qui survient n'est pas de nature sanitaire, mais économique. Est-ce que tu peux préciser ce point qui est peut-être un peu raccourci?
C'est un raccourci journalistique que peut-être je censurerais dans des copies d'examen. Si je la voyais, mais elle dit quand même quelque chose. Évidemment qu'il y a une crise sanitaire. Une crise sanitaire d'une ampleur inouïe sur la planète, dans son extension, et puis dans les mesures qui sont prises pour la combattre. Donc, de toute évidence, il ne faut pas prendre la formule au pied de la lettre. Mais tout de même, la manière dont cette crise sanitaire impacte nos économies dépend très largement de la manière dont on est organisé ou pas pour accueillir ce type de catastrophe. Et c'est toujours le débat entre est-ce que les catastrophes viennent de l'extérieur ou est-ce que c'est nous qui d'une certaine manière les provoquons? Bon, mais c'est sûr que ne pas avoir de masque ou n'être pas prêt à en produire parce qu'on pense que c'est le marché qui va le faire. Au moment opportun, ben évidemment, ça nous plonge dans des difficultés abyssales. Si nous avions eu des masques dès le début, pour rappeler que deux personnes qui portent un masque, ça diminue de 95% le risque de transmission s'ils sont dans une conversation. Donc on voit bien quand même que la manière dont on est organisé, c'est vrai aussi pour les lits d'hôpitaux. Ne pas avoir de réserve de lits d'hôpitaux, ne pas avoir de réserve de blocs à oxygène, fait que nous avons été obligés de prendre des mesures draconiennes pour stopper la diffusion du virus. Donc, ce virus n'aurait pas produit les mêmes effets dans une société sans doute paysanne du 19e siècle où les gens circulaient très peu et étaient pas en autarcie, mais en grande autonomie dans la production. Donc, ça n'est pas faux de dire que c'est une crise économique.
Alors tu poursuis, économique, je cite, hein, cette crise ne ressemble pourtant à rien de connu dans l'histoire du capitalisme. Cette crise ne résulterait, alors tu le dis, ni d'un choc d'offre, ni d'un effondrement soudain de la demande. Alors ni offre, ni cause liée à l'offre, ni à la demande. Est-ce que tu peux nous argumenter cet aspect? Et puis
Bah,
nous donner
disons si
aussi un peu une vision de l'ampleur de cette crise économique.
Oui. Disons que les tenants de l'offre et les tenants de la demande, ce sont les deux grandes écoles qui sont en dispute ou en controverse en économie depuis au moins les années 30 et la publication de la théorie générale. Donc, il y a ceux qui voient le monde comme étant contraint par les capacités d'offre de l'appareil de production, l'économie, disons, gouvernée et limitée par la rareté, Et puis de l'autre, il y a ceux qui voient l'économie gouvernée par la demande et limitée par la dynamique de formation de la demande dans l'économie, demande adressée aux entreprises pour écouler leur production de manière rentable. Ici, dans quelles circonstances on est? On n'est pas lié, enfin, on n'est pas dans une circonstance où la production s'est arrêtée parce que la demande s'est effondrée, parce que les gens auraient arrêté de dépenser en consommation ou parce que les entreprises auraient arrêté d'investir. Une crise de type crise de 29. Donc, manifestement, la nature de la crise n'est pas d'être keynésienne, on va dire ça comme ça. Enfin, elle ne rentre pas dans les schémas explicatifs du keynésianisme. Et puis, elle n'est pas non plus une vraie crise d'offres ou un vrai choc d'offres au sens où l'entendent aujourd'hui les économistes courant dominant en économie. Les chocs d'offres, généralement, ce sont des événements qui apportent de nouvelles contraintes ou de nouvelles difficultés inattendues sur la production. Par exemple, un choc d'offres typique, c'est une augmentation brutale des prix du pétrole. Donc, une augmentation des prix du pétrole est liée à une raréfaction du pétrole, provoque un choc sur les conditions de production et la rareté des facteurs de production, et donc modifie la trajectoire de l'économie et peut éventuellement la faire entrer en récession. Autre type de choc d'offres possible, des chocs de type technologique, en bien ou en mal, hein, des augmentations soudaines de la capacité à générer des gains de productivité grâce aux technologies, ou au contraire, un effondrement de cette capacité. Mais jamais on a mis, ça n'entre pas dans les modèles explicatifs, jamais on a mis en confinement et en arrêt volontaire, en gel ou tout ce qu'on veut, une partie conséquente de l'appareil de production. Parce que le confinement est une décision politique, hein, souveraine, et donc ça n'est pas de prime abord un déraillement au sein de la dynamique économique. On a décidé, sans totalement savoir, mais en gros, de geler un tiers des capacités de production du pays, parce que ça s'est traduit concrètement par ça, le confinement.
Justement, quelques données qui montrent l'ampleur de cette crise économique tout de même.
Alors, il y a depuis quelques jours des chiffrages qui sont assez convergents, qui sont faits soit par l'OFCE, soit par l'INSEE, soit par la Direction générale du Trésor, et qui se recoupent très largement. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que 8 semaines de confinement ont entraîné une perte de produit intérieur brut de l'ordre de 5 points de PIB, ce qui équivaut à peu près à 120 milliards d'euros de production et de revenus perdus donc en 8 semaines. Ça, c'est pour les 8 semaines du confinement strict. Et puis, il y a un prolongement de la Direction générale du Trésor qui dit, regardons ce qui se passerait en ajoutant le déconfinement progressif. Et la DG du Trésor fait une projection en disant 16 semaines de déconfinement graduel, ça équivaudrait à peu près à 8 semaines de confinement total, hein, en termes de perte de production. Donc l'idée, c'est qu'au total, on pourrait très bien avoir perdu entre 8 et 10 points de PIB, ce qui est extrêmement conséquent et extrêmement, extrêmement violent.
Alors, je reviens à la question qui était posée, qui va payer ou qui paiera? En fait, dans ton article, tu dis qu'une partie de la réponse à cette question est déjà sous nos yeux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut conjuguer cette question au présent. Qui paye?
Oui, tout à fait. Qui paye au présent? Ce sont justement ces pertes de production considérables dont on vient de parler. Ça veut dire, si on voulait continuer avec expressions journalistiques, la taille du gâteau à se partager a diminué de 10% à peu près, et ça veut dire que si on ne fait rien, la part de chacun aurait été réduite de 10%. Donc on paye, si on se situe à un niveau très global et très moyen et absolument sans distinction, qui paye? Nous payons tous en moyenne par la diminution de nos revenus et du revenu national global de 10% à peu près, si on se projette à la fin du confinement. Mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça en réalité. C'est que un certain nombre d'agents, mais principalement l'État va prendre à sa charge une diminution de sa part, disons, bien plus considérable que les autres agents, précisément parce que l'État a décidé de maintenir les revenus des salariés essentiellement à l'arrêt pendant cette période, pendant qu'ils ne produisent pas moins. Leurs revenus sont maintenus par la prolongation des droits au chômage ou les mesures de chômage partiel. Et puis l'État soutient aussi les entreprises, en tous les cas leur trésorerie dans un premier temps, pour qu'elles puissent continuer à honorer leurs dettes. Donc au moment où la production s'effondre de 10%, tout de suite il y a l'intervention redistributive de l'État. Il dit bon, ben je vais laisser filer le déficit pour qu'au moins les ménages ne subissent pas un trop gros choc. Donc là aussi, ça a été très bien chiffré par l'OFCE. Sur ce choc de 120 milliards de baisse de production et de revenus, il semblerait que l'État, les administrations publiques en général, parce que c'est aussi les comptes de la Sécu, c'est aussi les comptes de l'assurance chômage, l'État en ait absorbé 60%, en ait pris 60% à sa charge, d'une certaine manière, de ce choc. Les entreprises, 35%, ce qui est quand même extrêmement élevé, et les ménages, 5%. Donc, on voit bien que dans l'intervention de l'État, d'une certaine manière, si ces chiffres sont justes, mais encore une fois, ils se recoupent entre ces trois instituts, l'État est intervenu très, très massivement pour amortir le choc pour les ménages. Alors, évidemment, de manière aussi inégalitaire, hein, parce que un ménage qui gagne en dessous du salaire médian, même si on garantit 84% de son revenu net, il perd quand même ses heures sup, il perd quand même son panier repas s'il en a un, des primes diverses. Pour un certain nombre de ménages salariés, la chute peut suffire à leur faire passer la tête en dessous de l'eau, quoi. Et puis pour d'autres ménages relativement aisés, on va peut-être en parler, il y a presque un effet d'aubaine à cette crise, qui est qu'ils arrivent à épargner.
D'accord, on en parlera. Alors, tu indiques que quand on pose la question qui paye ou qui va payer, pour les économistes, c'est plutôt sous un autre angle qu'ils abordent cette question, c'est plutôt sous l'angle de la dette publique, comment elle va être remboursée, qui va payer cette deuxième facture. Mais dans ton article, tu commences par indiquer que quel est le vrai coût de la crise. Et là, pour moi, je dois dire que c'est un peu obscur. Je cite ton article, alors je le prends, c'est écrit en petit. Alors, le vrai coût de la crise, il n'est en fait que l'addition de la part de ces restrictions de production que supportent directement les États, d'un côté, et des réallocations de ce premier coût entre les catégories d'agents institutionnels qui les subissent de l'autre. Waouh! Et explique-nous un peu tout ça, Laurent.
Il faudrait que je me relise. non, pour faire plus simple, il faut repartir de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le premier coup et le vrai coup de la crise, c'est l'effondrement de la production, 220 milliards d'euros dont on a parlé, et l'effondrement corrélatif des revenus, qui sont la contrepartie de cette production, 220 milliards d'euros. Bon. Donc ça, c'est le vrai coup de la crise. Et comme on l'a dit, il est tout de suite re-réparti par l'État. Il n'est pas laissé comme ça au hasard. Et donc, ce premier coût, qui est le vrai coût de la crise, bon, ben, il est absorbé pour 60% par l'État. Il est absorbé pour 35% par les entreprises, donc 35% de 120 milliards. Et puis pour 5% par les ménages. Bon. Ça, c'est le vrai coût. Ensuite, la manière justement dont a été gérée ces modifications et cette répartition des parts, cette répartition de la charge de chacun par l'intervention redistributive de l'État, laisse l'État évidemment très endetté. Et donc se pose une deuxième question au sujet de cette dette. Cette dette, elle est contractée auprès d'épargnants. Donc, on pourrait dire la collectivité est endettée à travers l'État vis-à-vis d'un certain nombre de ménages épargnants, Et on va devoir, au fil des ans, des semaines, des mois et des années, on va devoir payer des taux d'intérêt, c'est-à-dire la collectivité, va devoir payer des taux d'intérêt sur cette dette à ces épargnants qui auront acheté les titres émis par l'État.
Alors justement, parlons de cette dette, la dette publique, donc la dette des États souverains, on appelle ça la dette souveraine je ne me trompe. Tu indiques que le vrai coût de cette dette, ce n'est pas le total des créances, qu'en fait l'État fait, alors c'est l'expression que tu donnes, fait rouler sa dette, et qu'en fait ce qu'on doit payer, ce sont simplement les intérêts, si j'ai bien compris.
Oui, l'idée que l'État, comme un ménage, devrait tôt ou tard rembourser le capital emprunté, c'est-à-dire le montant total de son endettement, c'est une idée qui ne fonctionne pas du tout pour les États. Quand un État doit rembourser une dette de 1 000 euros à Monsieur Machin Truc le 25 mai 2020, il réémet en même temps une nouvelle dette de même ampleur. Si l'État doit rembourser Monsieur X de 1 000 euros, il va le faire en plaçant une obligation de 1 000 euros à Monsieur Y. C'est ça que ça veut dire, faire rouler sa dette. Et tant que personne n'a de raison majeure de craindre dans la capacité de l'État d'honorer ce type de paiement, et donc finalement de faire rouler sa dette, personne n'a de réticence à lui prêter à nouveau. Donc il n'y a pas pour l'État, qui a une vie normalement illimitée, il n'y a pas de moment où on lui dit maintenant il faut rembourser ta dette, quoi.
D'accord. Mais il y a quand même un coût qui est le coût de l'intérêt.
Tout à fait. Alors ça, c'est le vrai coût.
Oui, voilà, ça c'est le vrai coût. Alors est-ce que ce coût peut être insupportable pour les États? Alors tu as parlé de confiance, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un risque, par exemple, de krach obligataire?
Ce n'est pas du tout à écarter. On pourrait dire qu'en première instance, comme toutes les dettes publiques augmentent à vitesse grand V, parce que la plupart des États sont intervenus d'une manière ou d'une autre pour absorber le choc, comme les dettes publiques sont en train de monter très vite, on peut penser que dans un environnement économique qui ne serait pas contrôlé, il y aurait quand même un bon début de panique sur les dettes publiques, et que les institutions financières qui gèrent l'épargne des ménages, c'est-à-dire les fonds de pension, les compagnies d'assurance, fonds mutuels, pour le compte de leurs mandataires, auraient pu très bien bouder les nouvelles émissions de dettes publiques ou réclamer des taux d'intérêt de plus en plus importants pour couvrir le risque de défaut qui commence à grandir dans leur tête, quoi. Donc, oui, tout à fait. C'est dans ce genre de circonstances, s'il n'y avait aucune mesure d'intervention prise, on serait certainement confronté à un krach obligataire, c'est-à-dire à une montée brutale des taux d'intérêt sur les dettes publiques.
Alors, dans ton article, tu consacres un bon chapitre aux réponses apportées par les économistes orthodoxes, en tout cas certains, et tu as le sentiment que ça bouge, que ces mêmes économistes orthodoxes arrivent d'une certaine manière à franchir les limites de leur propre théorie. Et tu t'appuies sur un article donné par Jean Tirole, prix Nobel, dans Les Échos, où il envisage quatre solutions de remboursement du coût de la dette publique.
Oui. Bon, alors, en effet, le premier étonnement sur l'intervention de Jean Tirole, c'est que il n'a pas du tout mis en avant, pour régler ce problème des dettes publiques, une nouvelle austérité économique redoublée, en disant dans 6 mois il va de nouveau falloir baisser les dépenses publiques, dans 6 mois il va falloir relever la TVA, ou dans 6 mois il faudra renoncer aux baisses d'impôts qui avaient été programmées pour l'avenir. Donc, déjà, ça, c'est quand même assez remarquable. Mais ce n'est pas anodin que l'un des chefs de file du courant dominant en économie, qu'on peut appeler le courant orthodoxe, ait quand même dans un coin de sa tête l'idée que ce n'est pas le moment de refaire de l'austérité, alors qu'il va falloir relancer l'appareil de production. Donc, j'imagine très bien qu'il a en tête ne rien casser au mécanisme de la dépense une fois qu'on pourra de nouveau dépenser allègrement. Donc, cette solution n'est pas mise en avant. Mais parmi toutes les solutions qu'il préconise, il y en a tout de même deux qui sont assez originales, enfin venant du camp orthodoxe. L'une qui est d'aller, pour contrôler l'évolution du déficit budgétaire, oui, de prélever l'impôt, mais sur les catégories aisées, et sans doute un impôt sur la fortune ou la richesse accumulée par ces catégories. Alors, bon, il ne détaille pas complètement son raisonnement, mais on peut penser que pour lui, il vaut mieux aller taxer la fortune des gens, parce que la fortune, c'est ce que vous ne dépensez pas finalement, bon, plutôt que de taxer leurs revenus. Parce que les revenus, c'est quand même ce qui alimente leurs dépenses de consommation quotidienne, voire les dépenses d'investissement des ménages. Donc, on voit que les lignes peuvent bouger assez vite sur un point comme ça. Une autre solution qu'il étudie, mais qu'il évacue très vite, c'est l'hypothèse d'une répudiation des dettes publiques. Bon, c'est-à-dire l'État pourrait décider que sur 20% de sa dette, il ne remboursera pas. Alors, je crois que Tirole a aussi raison de dire que c'est peut-être pas, en effet, la bonne manière de s'y prendre, parce que ça pourrait, là, pour le coup, alimenter encore plus la panique des épargnants qui financent la dette publique et provoquer très, très rapidement une défiance totale vis-à-vis de l'État, et donc de faire monter les taux d'intérêt sur sa dette à un point que connaissent tous les États qui, à partir d'un certain moment, ne remboursent plus leur tranche. Donc ça il l'évacue.
Même si c'est progressif, excuse-moi Laurent, même si cette annulation était progressive.
Voilà, je crois que les signaux faibles sont forts. Hein.
Et même si c'est coordonné au niveau européen.
Oui. Non, je pense que c'est une fausse route et surtout c'est tout de suite se priver évidemment de capacité à se réendetter. Donc un État qui fait ça ne trouve plus de prêteurs le lendemain, ou alors à des taux extravagants, quoi, qui fait que c'est même pas la peine d'en parler, et ça oblige l'État en question, et la Grèce s'est retrouvée dans cette situation-là au début des années 2000, ça oblige l'État en question à équilibrer immédiatement son budget. Si on ne peut plus financer le déficit budgétaire, du jour au lendemain, l'État ne peut plus payer ses fournisseurs, il ne peut plus payer ses fonctionnaires, il ne peut plus rien faire du tout. Donc, il doit baisser les salaires des fonctionnaires, il doit supprimer des pans entiers de services publics, faute d'être alimenté en argent.
Si l'État ne peut pas créer de monnaie.
Ah non, il ne peut pas le faire tout seul. Il faut forcément un partenaire. Et justement, l'autre... Une des solutions intéressantes que préconise Jean Tirole, et là, c'est vrai que c'est une vraie surprise, quoi, hein, c'est de monétiser la dette publique. Il vient d'une certaine manière en appui et en surappui de ce que peut faire la Banque Centrale Européenne, qu'elle a déjà fait dans les cinq dernières années. C'est pour la Banque Centrale Européenne d'acheter massivement sur les marchés secondaires, ce qu'on appelle les marchés secondaires, c'est-à-dire les marchés où se vendent et se revendent les dettes existantes, intervenir massivement sur ces marchés pour acheter de la dette publique et donc maintenir les taux d'intérêt sur ces dettes très bas, hein, puisqu'alors là, elle donne un gage de confiance au marché financier en disant « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez acheter la dette publique de tous ces États et vous arriverez toujours à la revendre. » Si jamais il y avait une tension à la revente et un peu de panique, rassurez-vous, il y a un prêteur, comme on dit, en dernier ressort. C'est la Banque centrale qui interviendra pour vous les acheter. Mais du coup, pour des tenants de l'orthodoxie, c'est assez étonnant d'entendre ça parce que la plupart d'entre eux pensent que émettre de la monnaie et financer les dettes publiques des États, c'est doublement, comment dire, c'est porteur de deux risques majeurs. Le premier, un risque d'inflation. Tout le monde a en tête l'image de la planche à billets, quoi. Et puis ensuite, l'idée que, ben, à partir du moment où les États peuvent faire acheter leur dette publique, même par le truchement du marché d'occasion par la BCE, il n'y a plus de limite au déficit public. Et donc, où est-ce que va-t-on? C'est un peu ça la question, si tout devient possible, quoi.
Est-ce qu'on est là dans le chapitre des corona bonds? Et comment cette solution-là, quel écho elle a vis-à-vis du duo Macron-Merkel sur les 500 milliards pour la relance? Ça s'articule non, tout ça ou pas?
Justement, non, ça ne s'articule pas comme ça parce que, d'un côté, on est du côté de la politique monétaire. De l'autre côté, on est du côté de la politique budgétaire. Alors, évidemment, elles se rejoignent par ce mode de financement. Mais on pourrait très bien dire que la Banque Centrale Européenne utilise toute son autonomie politique, et elle le fait depuis 5 ou 6 ans, pour intervenir sur les marchés financiers et maintenir les taux d'intérêt sur les dettes publiques très bas. Et d'une certaine manière, en faisant ça, par le truchement de l'achat de ces dettes publiques, en faisant ça, d'une certaine façon, elle supplée une Europe politique totalement défaillante qui ne veut pas mutualiser les endettements des pays européens. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les pays du Sud, je vais peut-être un peu vite et c'est schématique, mais les pays du Sud de l'Europe sont plus endettés que les pays du Nord. Bon. Donc, potentiellement, les tensions sur leur taux d'intérêt, sur les taux d'intérêt souverains de ces États-là, sont beaucoup plus importantes que pour les pays d'Europe du Nord, pour lesquels, disons, le capital de confiance est élevé sur leur dette. Donc, ça s'était parfaitement traduit avant la crise de 2008. L'éventail des taux d'intérêt était très ouvert en Europe. Les pays du Sud avaient des taux d'intérêt beaucoup plus importants que les pays du Nord. Or, l'intervention de la BCE, et en particulier la grande phrase de Mario Draghi en 2012, la Banque Centrale Européenne fera tout pour sauver la zone euro, ça voulait dire on ne se fixe aucune limite au rachat des dettes publiques, a considérablement resserré l'éventail des taux d'intérêt. Une dette italienne devenait aussi sûre qu'une dette allemande. Bon, il restait un petit gap, mais comme vous aviez la garantie en dernier ressort d'un rachat de la BCE, ça a permis de rendre étal les taux d'intérêt dans toute l'Europe et d'une certaine façon de faire bénéficier à tout le monde de cette garantie ultime. Ce qui serait l'intérêt de Corona Bonds ou de l'emprunt Merkel-Macron. Parce que en mélangeant toutes les dettes, on fait profiter aux pays du Sud de la bonne confiance dans l'endettement des pays du Nord, parce qu'on sait que derrière cette dette mutualisée, il y a quand même la garantie d'État solide. Simplement, l'Europe, ça fait 10 ans qu'elle n'arrive pas à mettre en œuvre une solution comme ça. Donc, ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, c'est assurer le résultat, mais d'une autre manière.
D'accord.
Je te vois... Je vois Jean avec les sourcils foncés.
Mais ça, c'est le propre de l'économie, hein, Laurent. Ça laisse toujours un interrogateur. On peut avoir compris quelque chose et puis après, il y a toujours un point d'interrogation qui subsiste. Oui, il y a une dernière solution. Bon, tu as parlé d'inflation tout à l'heure, la peur de l'inflation qui est classique chez les économistes orthodoxes, justement. Toi, tu envisages une dernière solution qui n'est pas envisagée par Jean Tirole, qui est ce que tu appelles la douce inflation.
Oui.
C'est doux à mes oreilles.
Oui, parce que si on regarde historiquement comment les États s'en sortent après des épisodes d'endettement extrêmement massifs et vertigineux, en particulier les guerres, hein, qui nécessitent un effort de guerre conséquent, et donc le financement de l'armée, du matériel militaire, etc. Alors même que l'économie est déjà elle-même en crise et que les recettes fiscales baissent. Bon, dans les périodes de guerre, l'État s'endette à peu près sans limite. Et à la sortie de la guerre, ça devient un fardeau extrêmement pesant. Bon, la plupart du temps, il y a eu des répudiations de dettes, pure et nette, mais il y a aussi eu une forme d'évaporation de la dette par relance de l'inflation. Et c'est une manière plus douce que la répudiation des dettes que d'aller flouer un petit peu les épargnants en ayant un régime d'inflation de 2, 3, 4 ou 5 % par an qui érode les créances émises pendant la période de guerre ou pendant la période de crise. Parce que si vous avez prêté 1 000 euros à l'État en période de coronavirus parce que vous êtes un épargnant aisé, que l'État vous a promis 10 euros d'intérêt par an, et vous a promis également de vous rembourser dans 10 ans ou dans 15 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, il vous remboursera 1 000 euros. C'est ça le contrat. Mais s'il y avait de l'inflation dans l'intervalle de 3, 4 à 5 % par an, pour l'État, rembourser 1 000 euros dans 10 ans, ce sera beaucoup moins onéreux d'une certaine manière, parce que ses recettes fiscales, à lui, auront augmenté au rythme de l'inflation. Ce sera beaucoup moins onéreux de rembourser sa dette à ses créanciers, dont on aurait donc grignoté par l'inflation 20, 30 ou 40 %. Alors, c'est une pratique en plus qui est assez juste, hein, puisque si des épargnants ont pu financer la dette publique pendant la guerre ou pendant la crise du corona, c'est qu'ils avaient de l'argent et qu'ils avaient les moyens de le faire. Donc, aller rechercher cette épargne qui s'est constituée d'ailleurs de manière pratiquement d'aubaine, hein, pour ces catégories aisées, c'est assez juste. Alors, la question, c'est comment on crée de l'inflation, quoi. Ça, c'est une vraie question. Et on voit bien que ce n'est pas en créant de la monnaie qu'on crée de l'inflation, sauf à aller mettre de la monnaie dans les poches des gens et en disant, vous ne vous souciez plus de vos revenus, prenez ça et allez acheter des yaourts. Bon, ça crée de l'inflation, il n'y a pas de doute.
Ça, c'est la monnaie hélicoptère, Laurent ? Ça,
c'est la monnaie hélicoptère.
Ah, j'ai pigé ça.
Mais bon, il n'y en a pas de monnaie hélicoptère, en fait, hein, dans l'économie. Et jusqu'ici, il n'y en a pas eu. Bon, mais la monnaie qui est créée, et on en a la preuve sous les yeux parce que c'est ce qui s'est pratiqué pendant quasiment les 10 dernières années, cette monnaie créée n'a absolument pas généré de l'inflation. Or, Dieu sait que les banques centrales européennes en ont créé de la monnaie et Dieu sait qu'elles l'ont créée à l'occasion de rachats de dettes publiques. Alors, pourquoi ça ne crée pas d'inflation? Parce que quand la banque centrale crée sa propre monnaie, et là, il n'y a pas de doute, hein, c'est de la création pure. Hein. Quand la Banque centrale crée 1 000 euros, par exemple, pour aller acheter sur les marchés d'occasion une obligation d'État, donc une dette de l'État qui vaut 1 000 euros, en fait, elle n'enrichit pas. Elle n'enrichit pas le public ou les épargnants. Elle retire de la circulation et de leur fortune une créance d'une valeur de 1 000 euros. Et elle leur met à la place 1 000 euros en liquide sur leur compte. Alors, pas sur le compte directement d'un ménage, mais sur le compte des institutions financières qui gèrent l'épargne des ménages. Donc, l'intervention de la Banque centrale ne consiste pas à enrichir le public. Elle fait juste une substitution dans la forme de leur propriété ou de leur richesse. Elle retire de la circulation un actif qu'on peut qualifier de relativement illiquide, et elle fournit à la place un actif liquide, qui est la monnaie, en euros. Et ben, si les acteurs des marchés financiers acceptent cette transaction, ils n'ont fait que changer la forme de leur épargne. Mais de leur point de vue, ça reste de l'épargne, ils n'ont pas l'intention de le dépenser. Si c'est de l'épargne, qu'elle soit sous forme liquide ou sous forme de terrain ou d'immeuble ou d'action d'entreprise, si à leurs yeux c'est la bonne manière de conserver leur richesse, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'aller acheter des yaourts avec et des carambars. Donc c'est cette création monétaire par ce qu'on appelle des politiques d'open market, d'intervention sur les marchés de titres, n'emporte aucun potentiel d'inflation. Et on voit bien d'ailleurs, à l'expérience de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, que les banquiers centraux ne savent plus comment créer de l'inflation. Or, ils sont quand même normalement responsables de la stabilité des prix. Mais on est en permanence en dessous de l'objectif de 2% depuis une dizaine d'années. Et donc, Mario Draghi et maintenant Madame Christine Lagarde peuvent se retourner dans leur lit en disant, mais comment on crée de l'inflation? Comment on crée de l'inflation? Et ce n'est pas en créant de la monnaie. La seule manière de créer de l'inflation, c'est comment dire, de stimuler le rythme d'augmentation des salaires monétaires dans l'économie, le salaire qu'il y a sur les fiches de paye. Parce que les prix sont essentiellement gouvernés par l'évolution des coûts salariaux. Et la raison pour laquelle il n'y a plus d'inflation, c'est que les salaires n'augmentent plus. Ils n'augmentent plus en Europe.
Ok. Alors, je note qu'on n'a pas parlé impôts dans tout cet entretien. On arrive un peu à la conclusion. Quelles sont pour toi les pistes qu'il faudrait suivre? Et puis, bon, on a parlé économie, mais derrière tout ça, il y a des conflits sociaux, il y a des enjeux sociaux. On va remettre un peu de lutte de classe, quoi, disons, dans l'affaire. Alors, comment tu penses qu'il faudrait envisager les choses?
Bon, l'une des choses les plus évidentes, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que si d'aventure, et c'est peut-être pas la bonne solution, et puis en plus, à titre personnel, ce serait très douloureux, mais si on voulait absolument, dès aujourd'hui, réduire le déficit budgétaire, bon, on pourrait très bien aller, en effet, taxer les 55 milliards d'épargne qui se sont constitués de manière quasiment d'aubaine dans les 2 mois de confinement. Parce que, bien entendu, ça aurait du sens, hein. Cette épargne est quasiment une bonne nouvelle pour les ménages aisés. Pendant 2 mois, on les a attachés au pied du mât et on leur a dit, vous ne pourrez pas consommer, et donc vous allez réussir à épargner comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer dans votre vie. Et donc, il faut comparer ça à la perte de production, quoi. 120 milliards de perte de production, et pourtant des ménages qui arrivent à épargner pendant cette période 55 milliards. Évidemment, ce sont les ménages aisés, ceux qui gagnent au-dessus d'une fois et demie, voire 2 fois le salaire médian. Et cette épargne leur a permis d'acheter la dette publique et au passage de gagner un petit taux d'intérêt, bon, qui est quand même assez médiocre, mais en tous les cas, ils n'ont rien perdu dans cette période. Donc on pourrait très bien dire, bon, on va chercher cette épargne et on va la taxer. Peu d'économistes le disez, et Jean Tirole va jusqu'à dire, non, non, taxons pas ça, taxons plutôt tout le patrimoine. Peu d'économistes le disent parce que tout le monde compte sur le fait que cette épargne va être le moteur de la relance économique à la sortie de la crise. En particulier, l'OFCE a fait des calculs. Si cette épargne était correctement dépensée et rapidement dépensée, la perte de PIB pour l'année 2020 ne serait pas de 5 points, mais seulement de 2 points, ce qui n'est quand même pas négligeable du tout. Donc il y a une vraie question quand même de savoir est-ce qu'on va taxer ces ménages aisés pour combler le déficit budgétaire, ou est-ce qu'on les laisse dépenser leur argent pour faire tourner l'économie de manière plus rapide? Ça, c'est peut-être une première question sur la répartition des revenus. L'autre élément, s'il y a de la lutte des classes derrière, elle n'est peut-être pas tout à fait à l'endroit où on pourrait le penser, parce que pour l'instant, on l'a vu, l'État a opéré une redistribution très rapide dans la crise, et c'est quand même les ménages qui ont été le moins impactés en général. Et donc, comme les ménages, c'est quand même 90% de salariés, bon, on peut penser que si on veut jouer tout de suite une petite musique capital-travail, je suis toujours partant, hein, pour cette chose-là, mais bon, ce n'est pas le meilleur moment, entre guillemets, parce que jusqu'ici, ça va changer, hein. Il va y avoir une montée du chômage assez forte dans les prochains mois. Mais jusqu'ici, les opérations n'ont pas consisté à flouer le travail et à ne sauver que le capital. Mais par contre, ce qui me semble véritablement en jeu, c'est tout de même un problème d'ordre économique et social. Parce que les choses telles qu'elles vont peuvent être remises en question très profondément. Beaucoup d'entreprises vont se retrouver dans des situations extrêmement difficiles, au bord de la faillite, et c'est clair que l'État va encore intervenir. Et l'État va intervenir pour les sauver. Et même, bien souvent, pour les alimenter en fonds propres. Donc là, il y a quand même une question majeure, c'est l'État qui vient sauver en permanence les entreprises, est-ce qu'on demande des contreparties ou est-ce qu'on garde le même modèle économique et social? Non, le capital est libre de faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il entend, et nous, on vient juste l'aider à redémarrer en le renflouant quand même avec le parti public. Est-ce qu'on va continuer comme avant, donc business as usual, ou est-ce que, en contrepartie de tous ces efforts qui seront faits par la collectivité, est-ce que toutes ces aides seront conditionnées ou pas à de nouveaux choix stratégiques de la part des entreprises, des choix plus écologiques, plus sociaux, voire est-ce que ces choses-là seront conditionnées à davantage de participation de la société dans les décisions des entreprises. Donc, à une certaine forme de socialisation progressive des entreprises, à partir du moment où, maintenant, tout est en train de se mélanger, quoi. L'argent public, le capital, les interventions de la BCE, on est en train d'entrer dans un monde qui ne veut pas dire son nom, mais où tout est déjà un peu collectivisé. Donc, il va y avoir un enjeu majeur, c'est est-ce qu'on va continuer à faire croire que l'entreprise n'a de compte à rendre qu'à ses actionnaires ? C'est une espèce de lutte des classes, entre guillemets, mais c'est surtout une lutte pour rattraper la maîtrise et la gouvernance sur nos principales institutions économiques.
Merci Laurent. Nous étions en compagnie de Laurent Cordonnier, qui est économiste et professeur à l'Université de Lille, et nous parlions d'un article qu'il a écrit dans le Monde diplomatique daté de mai 2020. Laurent, on se retrouve bientôt, j'espère, en direct sur Radio PFM.
Dès que possible.
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, ce sont des sujets qu'il faudra évidemment poursuivre.